La crise dans les Grands Lacs existe depuis grosso modo 20 ans. Il y avait bien entendu des signes avant-coureurs à partir de la fin des années 80. Mais en fait, la crise a pris de l'ampleur à partir du génocide au Rwanda avec la crise des réfugiés en 94, en 96, suivie par la rébellion, l'alors rébellion AFDL et la première guerre du Congo, suivie 2 ans après avec la deuxième guerre au Congo, puis la continuation des problèmes dans l'est du Congo, la disparition à certaines époques pratiquement de la présence étatique dans l'est du Congo, et la situation actuelle est un peu le reflet de tout ce que l'on a vu auparavant. C'est une crise dont les ingrédients sont en grande partie les mêmes qu'auparavant et qui sont l'existence de groupes armés qui sont armés et qui sont là parce que l'État n'est pas suffisamment présent. Groupes armés qui entraînent l'insécurité, qui entraînent la création d'autres groupes armés. Autre composante importante, c'est les restes des troupes armées rwandaises qui ont quitté le Rwanda après 1994, les groupes FDLR, contre lesquels ont été créés d'autres groupes armés qui prétendent alors protéger les rwandophones dans l'est du Zaïre, dans l'est du Congo, contre, et ainsi de suite. Donc c'est une succession de crises et de conflits. En moyenne, tous les 3-4 ans, il y a un rebondissement avec des conséquences humanitaires terribles en termes de réfugiés, en termes de personnes déplacées, en termes de violations de tout genre des droits de l'homme et des crises humanitaires.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de ressources? D'ailleurs, on parlait de mauvaise gouvernance, mais est-ce qu'il y a aussi ce problème de ressources? On parle du coltan.
La question de l'exploitation illégale des ressources naturelles fait incontestablement partie du problème, mais disons n'est pas la cause initiale du problème, parce qu'au moment où les crises dans les pays des Grands Lacs ont commencé, le coltan n'était pas aussi demandé, il n'était pas aussi coté sur le marché international qu'il n'allait à l'heure actuelle. En fait, les ressources naturelles et la montée en flèche des prix du coltan et produits dérivés se situent quelque part au milieu des années 90, alors qu'un certain nombre de crises, et certainement les crises initiales, étaient déjà en cours. Mais il est incontestable que les ressources, la gestion ou l'exploitation illégale des ressources naturelles alimente la crise et la porte parfois à des paroxysmes, avec des situations où une mine dans telle ou telle région ou dans telle ou telle sous-région change de main de groupes armés qui exploitent pendant un certain temps, qui s'enrichissent avec cela, qui achètent des armes, et ainsi de suite. Et donc les ressources naturelles contribuent certainement à la pérennisation des conflits.
Aujourd'hui, c'est la 5e ou 6e crise successive. Où est-ce qu'on en est exactement?
Mais là, tout de suite, la crise actuelle avec celle de la rébellion M23 a commencé en mars-avril de l'année passée. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, par l'intermédiaire du groupe d'experts du comité de sanctions du Conseil de sécurité, a constaté l'implication du Rwanda et partiellement et en moindre volume de l'Ouganda. Il y a eu des réactions assez explicites de la communauté internationale suite à ce rapport. Donc ça, c'est une des composantes de la situation actuelle, l'implication étrangère, extérieure dans l'est du Congo. Une autre composante, c'est le fait que le gouvernement de Kinshasa, pour l'instant, est en train de pourparlers. Il y a des pourparlers à Kampala entre les rebelles et le gouvernement de Kinshasa, pourparlers qui sont dans l'impasse, qui sont en cours là tout de suite et qui devraient se terminer dans les 2 semaines qui viennent. Situation militaire sur le terrain qui est très aléatoire et qui est très instable, avec une sorte de cessez-le-feu de fait, ce qui n'est pas formel et pas déclaré, mais qui est une sorte de situation de fait, mais qui est en attente de cet aboutissement ou du non-aboutissement des pourparlers à Kampala. Donc ça reste une situation très dangereuse et très imprévisible.
Alors vous avez été ambassadeur au Rwanda, au Congo. Vous êtes en ce moment chargé de mission aussi par rapport à ces pourparlers. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes optimiste sur une possible résolution d'un tel conflit?
Mais il faudra bien trouver une solution à l'aspect immédiat de la crise. C'est-à-dire que si dans 10 jours ou dans 15 jours, aucun accord est trouvé à Kampala, que va-t-il se passer sur le terrain? Est-ce que les forces opposition, c'est-à-dire les rebelles, l'armée congolaise, peut-être des appuis extérieurs, est-ce qu'ils vont continuer à se battre? Est-ce que d'aucuns souhaitent en découdre avec toutes les conséquences et les aspects imprévisibles qu'on peut imaginer? Ça, c'est un aspect de la crise, un aspect à moyen ou à long terme. C'est le fait que la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union africaine, plusieurs organisations sous-régionales en Afrique, plus des partenaires bilatéraux qui sont intéressés à cette problématique des Grands Lacs, il y a un large consensus de soutenir l'accord cadre, enfin ce qu'on appelle l'accord cadre, qui a été signé sous impulsion du secrétaire général des Nations Unies, qui a été signé au mois de février à Addis Abeba et qui contient en fait, in abstracto, les ingrédients, les composantes qui sont nécessaires pour essayer de faire sortir toute la région de l'ornière, notamment pour ce qui concerne l'Est du Congo, est arrivé. En distinguant les responsabilités du Congo, qu'est-ce que le Congo peut faire de son côté pour contribuer à des solutions, qu'est-ce que la région, les pays voisins, la région dans le sens plus large, devrait faire pour contribuer à la recherche d'une région, et qu'est-ce que la communauté internationale, les bailleurs de fonds, d'une manière générale, pourraient faire de leur côté pour trouver des solutions. Donc ça, c'est très important. Il y a cet aspect immédiat. Il faut empêcher que la violence ne recommence. Et une fois que la situation se serait stabilisée un tant soit peu, il faut passer aux solutions à moyen et long terme. Et il faut absolument relancer le développement économique à travers des projets régionaux et qui permettront à la région de sortir de l'ornière où elle se trouve maintenant.